Chapitre 23. Comme une volée de moineaux, les villageois quittèrent la place des fêtes. Certains foncèrent chez eux pour s'emparer de couteaux, de massues, d'arcs et de tout ce qui pouvait servir d'armes. Nathan et Bannon dégainèrent leurs lames, prêts au combat. Sur le visage du jeune homme, Nietzsche vit une expression très différente de celle qu'il affichait contre les Selkas. Du dégoût, lui sembla-t-il, et de la peur. Bien qu'il n'y eût pas de vent, les navires fondaient sur la plage. Sur leur mât unique était accrochée une voile teinte en bleu marine pour ne pas être vue la nuit. La magicienne entendit des ploufs répétés et des halètements d'hommes. Améliorant sa vision avec un sort d'abolition des distances, elle découvrit que les quatre bateaux étaient propulsés par des rames, une multitude de rames.
« Des Norukaïs esclavagistes !»
cria Bannon.
« Préparez-vous à vendre chèrement votre peau !»
lança Holden.
« C'est un nouveau raid !»
« Tu peux éclairer ma lanterne, fiston ?» demanda Nathan. « Qui sont ces gens ?»«
Un cauchemar !»
En accostant, un des quatre navires écrabouilla une petite barque de pêche. Les sangs glacés, Nietzsche vit que chaque bateau arborait en guise de figure de proue une tête de serpent de mer, la même que sur l'épave dans laquelle ils avaient dormi la première nuit. Des flèches incendiaires jaillirent des navires et vinrent se ficher dans les toits des maisons, au milieu des rues et dans le corps d'habitants malchanceux. Une partie des villageois, lestés de seaux d'eau, coururent empêcher que le feu se propage à tous les bâtiments. Armés de briques et de brocs, les autres convergèrent vers les quais. Au premier coup d'œil, Nietzsche vit qu'il n'aurait aucune chance de repousser de tels agresseurs. À vue de nez, les quatre navires transportaient 300 guerriers.
« C'est à nous de combattre !»
dit la magicienne à Nathan.
« Exactement la réflexion que je me faisais !»
lança le vieux sorcier en levant son épée. Nietzsche invoqua une boule de feu, la lança et la regarda grossir jusqu'à ce qu'elle explose dans le ciel pour éclairer les navires et leurs occupants. Percutant les quais, les deux premiers s'y arrimèrent avec des crochets, tandis que les guerriers des deux autres mettaient à l'eau des canots pour arriver plus vite sur la plage. John et Philippe se campèrent à côté de Nathan.
« Esprit, sauvez-nous !»
cria la couturière.
« Non, c'est moi qui vais vous sauver !» dit Nietzsche.
« Philippe !» demanda Nathan. « Vous êtes en guerre contre les Norukaïs ? Pourquoi attaquent-ils Renda sur Bay ?»«
Pour eux, nous sommes du bétail !»
répondit l'ancien pêcheur.
« En principe, ils viennent avec un seul bateau, enlèvent une dizaine de personnes et s'enfuient, mais là, c'est une invasion !»«
Dans ce cas, »
dit Nietzsche,
« nous sommes arrivés au bon moment !»
Sur les quais, des Norukaïs couraient déjà vers le village. Du côté de la plage, le débarquement était en cours. Tous ces guerriers brandissaient des massues, des cordes et des filets. Dans le ciel, la lumière magique se dissipa, mais Nietzsche avait largement eu le temps d'enregistrer la position des assaillants. Avec un mélange de magie additive et soustractive, elle invoqua des éclairs noirs qu'elle propulsa sur les trois premiers Norukaïs qui déboulaient des quais. Le torse déchiré, ses colosses s'écroulèrent comme des pantins. Cette attaque inattendue ne donna pas à réfléchir aux esclavagistes. Défiant le ciel de la voix, ils chargèrent. Sur la plage, un premier groupe se lança à l'attaque. Nietzsche tua tout ce petit monde. Trapus, les Norukaïs au crâne rasé avaient des épaules incroyablement larges et des bras musclés. Pour se protéger, ils portaient des gilets en peau de reptile, du moins si on se fiait à leurs écailles. Vision d'horreur. Leurs joues étaient fendues, du coin de leurs lèvres jusqu'aux articulations des mâchoires. Élargissant démesurément leur bouche, ces plaies recousues leur donnaient des faux airs de serpents. Quand ils poussaient leurs cris de bataille, on eût dit une horde de vipères sur le point de mordre. Un très petit nombre portait une épée ou une lance. Les autres ne cherchaient pas à tuer, mais à capturer des proies. À Renda sur Bay, ils venaient faire leur marché. Une nouvelle volée de flèches incendiaires s'abattit sur le village. Plusieurs bâtiments étaient en feu. Voyant que les flammes passaient d'un toit à l'autre, Nietzsche invoqua sa maîtrise du vent et de l'air. Puis, elle chassa les flammes et priva les incendies d'oxygène pour qu'ils s'éteignent très vite.
« Je ne peux plus t'aider à lutter comme ça !»
dit Nathan dépité.
« Mais il me reste ma lame, et je ferai ma part du travail !»
Comme un seul homme, Bannon et lui chargèrent les Norukaïs qui venaient de la plage. Dans les yeux du rouquin, Nietzsche eut le temps de voir passer une curieuse lueur. La peur oubliée, il semblait hanté par quelque chose. Eux aussi armés d'épées et de lances, les villageois ne semblaient pas très doués pour s'en servir.
Sans avoir de plan en tête, Holden cria quelques ordres puis courut à la rencontre des assaillants. Du coin de l'œil, Nietzsche vit que le quatrième navire venait de s'arrimer au quai en cassant du bois. Pas question de laisser ces Norukai débouler dans le village. Remise de son empoisonnement, la magicienne au sommet de sa forme pouvait faire bien mieux que d'invoquer le vent et les éclairs. Sa boule de feu de sorcier vola vers la proue du navire, la carbonisa en un clin d'œil, puis s'attaqua au reste du bâtiment. 15 guerriers s'embrasèrent en même temps. Quand leur peau se consuma sur leurs os, ils hurlèrent à s'en découdre les mâchoires. Très difficile à éteindre, le feu de sorcier continua son ouvrage, embrasant le mât puis la voile qui brûla comme de la paille. Pendant la bataille contre les Selka, Nietzsche, diminué, avait recouru à des boules de feu assez petites. Du coup, la pluie et les embruns avaient minoré les effets dévastateurs des incendies. Ce soir, à Renda-sur-Bay, les flammes ne se laisseraient arrêter par rien. Plusieurs Norukai, certains en flammes, sautèrent à l'eau pendant que leur bateau flambait. Les cris des agonisants résonnèrent comme une douce musique aux oreilles de Nietzsche. Même si elle n'était plus la tueuse d'alors, ça lui rappela le jour où elle avait fait rôtir vivant le commandant Kardef devant tous les habitants d'un village conquis, simplement pour prouver qu'elle ne connaissait pas la pitié. Mais des centaines de Norukai avaient réussi à entrer dans le village. Avec leurs massues et leurs filets, ils affrontaient des habitants mal armés. Ignorant la peur, les envahisseurs avaient un énorme avantage sur leur proie sans expérience du camp. Des filets lestés s'abattirent sur 3 hommes qui tentèrent en vain de se libérer. Dans leur affolement, ils s'étalèrent et les Norukai n'eurent plus qu'à les assommer à coups de massues. Un protocole parfaitement au point, semblait-il. Leurs victimes inconscientes, les Norukai les ligotèrent, les hissèrent sur leurs épaules, puis les transportèrent jusqu'au navire le plus proche. Des flèches incendiaires continuaient à pleuvoir sur le village. Acharné à les éteindre en vol et à maîtriser les feux déjà existants, Nietzsche fut vite débordé par le nombre. Les Norukai semblaient décidés à raser Renda-sur-Bay, le meilleur moyen dans la panique pour enlever des dizaines de victimes. Plus que comme une armée, ces esclavagistes se comportaient comme des chasseurs lors d'une battue. Une lame, se répéta Nathan, pouvait être aussi mortelle qu'un sortilège, à condition qu'un bon escrimeur la manie. Et sa nouvelle chemise, à sa taille, était confortable et propre, pour le moment. En fendant l'air avec son épée, il chargea le premier rang de Norukai. À ses côtés, Jan et Philippe faisaient de leur mieux. Armé d'un harpon, l'ancien pêcheur se révélait plutôt adroit, comme un esclavagiste put s'en apercevoir quand il lui transperça le torse. Même agonisant, l'horrible guerrier griffa frénétiquement l'air. Petite mais agile, Jan frappait les attaquants avec un couteau de boucher. Son épée tenue à deux mains, Nathan fendit le crâne d'un des horribles et grotesques Norukai. Près de lui, Bannon frappait dans toutes les directions. Impressionnés par ce fou furieux, les esclavagistes reculèrent. Mais ils ne furent pas longs à se ressaisir. Avec des cris gutturaux, ils remontèrent à l'assaut, des renforts armés de lances dans leur sillage. Au bout de ces armes, on avait fixé la défense dentelée d'un animal inconnu. Tandis que leurs camarades faisaient diversion, ces lanciers localisèrent le cœur de la résistance. Holden monta sur des tréteaux et harangua ses troupes.
« Tenez bon! Ne les laissez pas prendre nos femmes et nos enfants! Ne vous... »
Un des lanciers frappa. Et l'étrange défense s'enfonça dans le torse du villageois avant de ressortir dans son dos. En première ligne, Nathan tranchait des membres et transperçait des torses. Alors qu'il venait de voir du coin de l'œil une lance s'abattre sur lui, il sentit au fond de son être une sorte de remous qui... Une étincelle de magie, enfin ? De quoi dévier l'arme qui le menaçait ? Comme sortilège, il n'y avait pas plus simple. Sauf que rien ne se passa. Abandonné par son don, le vieil homme allait mourir. Bannon le tira par le bras, le sauvant de justesse.
« Un peu de prudence, sorcier. J'ai encore besoin de vous pour m'aider à battre ces chiens. »
La haine qui faisait vibrer la voix du jeune homme troubla Nathan. Les yeux écarquillés, un rictus à la place de son sourire habituel, Bannon n'était plus le gentil jeune homme qui l'attendrissait tant. Un fou furieux, ivre de vengeance. Sans se soucier des coups portés par les esclavagistes, Bannon chargeait et tranchait dans le vif. Alors qu'il décapitait un Norukai, il hurla de haine comme s'il venait d'abattre un très ancien ennemi tapi dans sa mémoire.
Sale chien !
Beugla-t-il en fendant l'épaule d'un autre type. Dans la foulée, il éventra un esclavagiste qui tenta de lui saisir au vol le poignet. Se dégageant, le jeune homme coupa le bras de son adversaire. Comme pour le narguer, il lui trancha aussi l'autre, le contraignant à regarder impuissant ses entrailles se déverser sur le sol.
« Fiston, tu vas finir par te faire tuer !»
lança Nathan. Alors que les Norokai convergeaient vers cet adversaire inhabituellement combatif, le sorcier le suivit comme son ombre afin de le protéger. Bien lui en prit, puisqu'il dévia une lance qui aurait traversé le torse du rouquin. Sa trajectoire modifiée, l'arme alla se ficher entre les omoplates d'un autre Norokai. Des esclavagistes encerclèrent Jeanne et lui jetèrent un filet dessus. Tombant à genoux, elle se servit de son couteau pour se libérer. Voyant ça, deux grands types approchèrent et levèrent leur massue. Nathan embrocha le premier dans le dos. Alors que l'autre se retournait furieux, Jeanne lui plongea sa lame dans le mollet. Quand il essaya d'arracher le couteau, Nathan le décapita d'un coup net et précis. Puis il aida Jeanne à se dégager complètement du filet. Philippe apparut, couvert de sang et débordant de gratitude.
« Tu l'as sauvé. Merci, sorcier. »
Au moment où l'ancien pêcheur tendait une main vers sa femme, une flèche enflammée se ficha dans sa nuque, la pointe ressortant au creux de sa gorge. Comme si cet incident l'agaçait, Philippe saisit la hampe du projectile, puis il regarda Jeanne, qui cria de terreur, lui sourit, et tomba raide mort. Rugissant de fureur, Bannon zébra de coups les flèches qui s'abattaient du ciel, puis il se rua sur deux Norokai, abandonnant Jeanne agenouillée près de son défunt mari, Nathan courut soutenir le bouillant rouquin. Le village était en feu. Malgré ses efforts, Nietzsche avait perdu cette bataille-là. Mais au fond, ça n'était pas si important. Si elle ne repoussait pas les Norokai, que Renda sur Bay brûle ou non ne ferait aucune différence. Même si plusieurs d'entre eux étaient prisonniers des Norokai, les villageois se défendaient bien. Les esclavagistes battaient en retraite vers une des galères qui se préparait déjà au départ. Avec ses éclairs noirs, Nietzsche carbonisa six guerriers qui se croyaient en sécurité sur le pont de leur navire. Doutant de pouvoir empêcher la fuite du bateau, elle se concentra sur le combat terrestre. Plus de 100 Norokai continuaient l'assaut. Ayant repéré Nietzsche et ses pouvoirs, plusieurs d'entre eux semblaient penser qu'elle serait une prise de valeur. Des abrutis. Un guerrier à gueule de reptile leva sa masse d'armes tandis que deux autres, filés au poing, avançaient vers la magicienne. La prenait-il pour une cible facile? Allons, qu'il ne lui fasse donc pas perdre du temps. Pointant du doigt chacun de ces imbéciles, elle arrêta leur cœur et ne daigna même pas les regarder s'écrouler. Nietzsche reprit son souffle et fléchit les doigts. Encore alerte, elle pouvait sans peine générer une nouvelle boule de feu de sorcier. Avec cette arme, incendier la galère fugitive serait un jeu d'enfant. Mais tout le monde brûlerait à bord, y compris les prisonniers. Préférerait-il ce sort à la captivité? Consciente que ce n'était pas à elle d'en décider, la magicienne se tourna vers les Norokai encore à terre. Au lieu de modeler une boule, elle leur propulsa dessus une muraille de flammes qui en embrasa une bonne trentaine, autant de condamnés à mort. Touchés par le feu de sorcier, même une simple étincelle, on se consumait inexorablement de l'intérieur. Les Norokai basculèrent en avant comme des troncs d'arbres dans une forêt en flammes. Même épuisé après une telle dépense d'énergie, Nietzsche expédia deux lances de feu ordinaires dans les voiles de deux galères. La teinture aidant, l'incendie se répandit à toute vitesse. Après avoir abattu au moins 20 adversaires, Nathan et Bannon continuaient à trancher des têtes et des bras. Galvanisés, des villageois les imitaient. Pour limiter les dégâts, les lanciers ennemis propulsaient leurs armes sans prendre le temps de viser. Avec ses dernières forces, Nietzsche lança sur ses guerriers une muraille de vent qui les força à reculer. Baissant enfin les bras, ils battirent en retraite vers la dernière galère en état de naviguer. Sur les deux autres, des marins tentaient désespérément d'éteindre les flammes. Sous des cris de haine, les navires à tête de serpent s'éloignèrent des quais. Voyant qu'il restait du pain sur la planche, Nietzsche dégaina son couteau. Pour tailler en pièces les esclavagistes abandonnés par leurs camarades, elle n'aurait pas besoin de magie. Mais les villageois et leurs alliés étaient loin d'en avoir terminé.